Cher Louve éveillée, et si on apprenait à mieux se connaître et se comprendre? Je m'appelle Gaëlle Dick, je suis coach personnel et ma mission est d'éveiller les femmes dans leur rapport à leurs émotions, leur corps et leur alimentation. Dans ce podcast, tu trouveras un espace où on réfléchit, où on se pose des questions pertinentes et où on se libère des conditionnements. Ici, j'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations et mes réflexions, mais aussi de répondre à vos interrogations et questionnements dont j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous. Ici, on s'interroge, mais surtout on fait en sorte de passer à l'action, afin d'évoluer et s'éveiller lorsqu'on le désire. Ici, on revient à l'essentiel, on reconnecte avec soi, mais aussi avec les autres, et surtout on apprend ou réapprend à prendre soin de son corps et de son esprit simplement, avec humanité et curiosité. Salut à tous et bienvenue. Je suis trop contente de me remettre devant mon micro afin de vous enregistrer ce petit épisode qui, je l'espère, va vous aider ou du moins vous parler. Car aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Pas besoin de faire parfait pour progresser. Oui, je l'affirme haut et fort et je vais m'atteler à te le démontrer durant cet épisode. Mon intention aujourd'hui est qu'à la fin de cette écoute, vous voyez la progression différemment, de manière plus sereine surtout, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie. Ma spécialité, c'est de parler de recomposition corporelle et de développement personnel. C'est deux choses qui sont vraiment très liées à la progression. Cependant, je pense personnellement que la perfection n'a rien à faire dans ces domaines. À vrai dire, je pense que ça peut même devenir quelque chose d'extrêmement limitant. En effet, c'est du besoin de perfection que découle cette mentalité qu'on voit, enfin en tout cas que moi je vois très très souvent, notamment dans les personnes qui me contactent pour un coaching, c'est cette mentalité du tout ou rien. Et en fait, c'est de ce tout ou rien que découle la plupart des échecs. Parce que c'est une pensée un peu dichotomique, où tout est blanc ou tout est noir, et en fait celle-ci, elle nous influence et c'est vraiment pas de la meilleure des manières. Parce que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. En fait, toute cette vie, c'est une immense palette de nuances de gris. Et ça, je pense que je t'apprends rien, parce que c'est quand même quelque chose qu'on pense de manière assez naturelle, sauf lorsque on est face à certaines situations qui nous rendent pas forcément très rationnels. Mais en fait, notre fonctionnement d'humain est tellement complexe et notre besoin de perfection, il est lié à plein de différentes croyances, de peurs ou de besoins. C'est assez difficile de citer juste une ou deux parce qu'en fait, ça dépend vraiment des gens. La source de ce besoin de perfection dans ce que l'on fait peut être assez variée, peut être assez différente suivant les gens. Mais on peut retrouver quand même des petites choses comme par exemple la peur de l'échec, la peur de ne pas être ou de faire assez. La peur d'être jugé, d'être critiqué. Après, il peut y avoir aussi le besoin de rendre fier autrui ou même soi-même, le besoin de résultat, ou encore des croyances comme celle qu'il faut être parfait pour être aimé, qu'il faut être vraiment satisfait de soi aussi pour s'aimer. Et j'ai fait un podcast d'ailleurs à ce sujet. Je vous invite à lire comment c'est le nom ? Alors, je ne me rappelle plus, j'ai un problème avec les noms, mais il me semble que c'est les 5 pièges, nanana. Je vous mettrai, si vous voulez, du coup, le lien dans les notes du podcast. Donc, vraiment, cette idée qu'il faut faire les choses parfaitement du premier coup pour être vraiment apprécié, pour susciter l'amour, ce qui est complètement faux. Ou du moins si on vous a fait croire ça, c'est que c'était quand même quelque chose d'assez toxique et qui est finalement très peu réaliste. Donc c'est déjà très bien aujourd'hui d'écouter cet épisode parce que ça va vous donner des clés justement par rapport au fait de déconstruire un petit peu ces croyances. Ou encore la croyance que le contrôle est nécessaire, qu'il faut contrôler absolument ce que l'on fait, que ce soit vraiment carré pour que ce soit bien fait. Et en gros, si c'est pas parfait, bah c'est nul à chier, clairement. C'est un peu cette pensée dichotomique dont je vous parlais, un peu soit blanc, soit noir. Mais en fait, ça ne peut pas être soit parfait, soit être de la merde. Il y a forcément quelque chose entre les deux. Et c'est là-dessus, en fait, que peut-être repose 99% de nos actions, clairement. Et en plus de ça, le contrôle, c'est également une forme d'illusion, finalement. Mais en fait, celle-ci, elle rassure, parce qu'on est quand même dans un monde où tout est instable. Et pour ma part, j'ai toujours trouvé ça très difficile d'évoluer dans une société où la performance et le matérialisme règnent en maître. Mais vouloir faire les choses parfaitement et pour cela tout contrôler, c'est extrêmement énergivore. Et en plus de ça nous amène, dans la majorité des cas, à un résultat qui va à l'opposé de ce que l'on recherche. Comme on s'obstine à vouloir tout faire pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être jugé, pour ne pas échouer, eh bien la plupart du temps, on ne commence même pas en fait. Ou encore, on veut un résultat sans pour autant faire le chemin pour y arriver. Et je trouve qu'il y a un exemple qui illustre assez bien le fait de progresser, c'est celui du sport. Typiquement, personne, absolument personne, n'arrive à effectuer des gestes techniques parfaitement du premier coup. Ou bien sûr, cela peut arriver, par exemple, du premier coup, mais derrière, à force de pratique, on va se rendre compte que c'était peut-être pas la chance du débutant, mais du moins que le cerveau, il s'est tellement mis en phase pour répéter un geste qu'il a vu, que du coup il a fait parfaitement. Mais en fait, à force de pratiquer, bah nerveusement, c'est pas bien implémenté. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. À l'heure où j'enregistre ce podcast, hier, je suis allée faire un cours privé de Muay Thai, donc de boxe thaï. Et en fait, j'en ai jamais fait. J'ai déjà fait un peu de judo quand j'étais plus jeune, notamment avec l'école, donc ça, j'avais quand même pas mal pratiqué. J'ai fait quelques cours de self-défense, Krav Maga ou MMA, mais vraiment, genre, je suis restée une extrême débutante, avant même le débutante presque. Donc en fait, il a fallu vraiment reprendre la base de la base. Et il a fallu, dès le début, répéter encore et encore les gestes les plus simples qu'on nous avait montrés quelques minutes avant. Et au début, le mental y prend toute la place. C'est-à-dire qu'on doit penser à la position des pieds, l'alignement des hanches avec les épaules, à la garde, à ne pas plier le poignet, à respirer. Et en fait, on réfléchit énormément et pourtant on se loupe. En fait, c'est pas fluide. Et bah, sur toute cette liste de choses à penser, on en oublie certaines, du coup, on fait des erreurs. Pourquoi? Bah, en fait, parce que c'est nouveau. Donc, entre ce que le cerveau comprend, le système nerveux comprend et ce que votre corps fait, bah c'est pas fluide, mais c'est normal en fait. Parce que ce sont des mouvements que je n'avais pour ma part jamais fait, ou presque. Parce que mon corps ne les a pas imprimés nerveusement, parce que je manque de pratique, d'entraînement. Et en même temps, cela fait une heure que je les fais ces gestes. Donc comment pourrait-il en être autrement? Et s'énerver parce qu'on réussit pas quelque chose de nouveau, ou désespérer parce qu'on ne fait pas les choses comme il faut directement, c'est un non-sens. Il faut remettre un peu son ego en place et redescendre sur terre 5 minutes. Il n'y a aucune honte à ne pas réussir du premier coup ou de ne pas faire juste lorsque l'on commence quelque chose de nouveau. De toute façon, qui pourrait vous le reprocher? Mais en fait, cette question, elle n'est pas vraiment rhétorique, parce que je sais qui pourrait vous le reprocher. Et la source un petit peu de cette inquiétude à l'idée de ne pas réussir à faire quelque chose du premier coup, à vouloir que ce soit directement parfait. Ben en fait, ça provient un petit peu, je pense, je peux me tromper, mais selon moi, de notre système scolaire. Parce que moi, quand je remonte un petit peu le fil de mes souvenirs, quand je me rappelle un petit peu comment ça se passait en cours, lorsque l'on était interrogé, il fallait avoir la bonne réponse directement. Et en fait, t'as pas la bonne réponse, et ben il faut que t'essayes de la trouver, quitte presque à inventer une réponse plutôt que de n'avoir rien à dire. Et limite, même parfois, si on ne savait pas la réponse, pic d'humiliation, on nous envoyait carrément au tableau pour appuyer sur ce qui fait mal, genre t'as pas écouté, t'es pas au courant de ce que tu racontes, tu vas apprendre à la dure. Sauf qu'à cause de ça, bah, on a du mal à avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas, que l'on n'a pas la réponse, que l'on n'a pas compris quelque chose. Et je pourrais faire clairement un épisode entier à ce sujet, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais dans la vie réelle, entre guillemets, ça ne se passe pas comme ça. Et les gens qui vous reprochent de ne pas faire les choses parfaitement du premier coup, bah, moi je vous invite à avoir de la compassion pour ces gens-là, parce que ça doit être vraiment, vraiment difficile de vivre avec le genre de personnes qu'elles sont, parce que ça veut dire qu'elles se mettent la barre pareil tellement haut qu'elles exigent en fait des autres de se mettre la barre aussi haut. Mais c'est pas parce que vous mettez la barre super haut que vous allez la choper direct, que vous allez l'atteindre directement non plus. Il va falloir peut-être pas mal d'essais, pas mal d'entraînements avant de le faire. Et ceux qui l'oublient, eh bah, franchement, c'est pas vraiment souhaitable, quand même. Donc même si on vous reproche des choses, vous essayez de rester rationnel et de vous dire qu'en fait, vous débutez. Et même si vous avez débuté il y a quelque temps, que simplement vous avez le droit à l'erreur. Parce que finalement, sur le long terme, il n'est pas possible non plus de faire les choses parfaitement sans un entraînement, sans répétition, encore et encore. Alors, ne parlons même pas sur quelque chose que l'on fait seulement de manière occasionnelle. Et pour continuer ce parallèle avec la pratique sportive, pourquoi un athlète est un athlète ? Ben, parce que c'est un sportif dont c'est le mode de vie. C'est de la pratique, encore et encore, depuis des années. Et là, je vais faire un petit aparté, mais typiquement, on voit beaucoup de photos de physique d'athlètes sur Instagram, typiquement. Ça arrive quand même assez souvent qu'on voit des athlètes Gymshark. Enfin voilà, c'est un peu toujours les mêmes physiques, fessiers très bombés, abdos tracés, physique quand même assez sec, vraiment avec une certaine densité musculaire. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que ces personnes, elles passent peut-être 5 à 12 heures minimum de leur temps à la salle de sport par semaine, ce qui est relatif quasiment à peut-être presque un mi-temps en fait professionnel. Et par exemple, leur alimentation, c'est peut-être une de leurs priorités numéro 1, quitte peut-être à striker des anniversaires, à pas aller au resto, etc., etc. Tout ça, on le voit pas en fait. Par contre, on voit que le résultat. On ne voit pas le parcours qu'ont eu ces gens-là pour arriver à ce physique. Et pourtant, on arrive à se comparer à ce genre de personnes, à vouloir ces physiques secs aux fessiers bombés. Alors attention, je pense bien que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne veut pas ressembler à ces athlètes, mais c'est vraiment pour illustrer. Sauf que le problème, c'est que bah, on va se mettre au fitness pour ressembler à ce genre de personnes, pour avoir des abdos tracés, alors qu'en fait, ces gens, ils passent pour la majorité leur temps, leur vie à la salle. Ils consacrent en fait ça parce que ce sont des athlètes. Et ce, depuis des années. Et ils ont une vie, en fait, qui est construite autour de leurs objectifs. Parce que, pour certains, c'est carrément leur métier, en fait. Quand vous voyez des athlètes bikini, alors oui, ça peut être intéressant de faire une compétition bikini, mais en fait, ces gens-là dédient leur vie à ce sport et à ce mode de vie. C'est-à-dire que le sport, ça va être une heure dans la journée, une heure et demie. Après, derrière, ça va peut-être être trois repas dans la journée. Et c'est ça pendant des mois, des semaines. Donc c'est incomparable en fait. On peut pas ne se comparer, nous, individus lambda, et je me mets dedans, par rapport à des athlètes. Typiquement, un coach sportif peut être un athlète comme il peut ne pas l'être. Pour ma part, ce n'est pas mon cas. Je ne me considère pas comme une athlète. Parce que, certes, j'ai une très bonne hygiène de vie, clairement, bien plus qu'il y a quelques années, mais par contre, je ne veux pas dédier ma vie au bodybuilding. C'est un choix, c'est une décision. Donc, je sais que je n'atteindrai probablement jamais un physique d'athlète, parce que je ne le suis pas. Mais revenons-en à cet aspect de progression. Durant ces 2 heures de boxe thaï que j'ai pratiquées hier, il est clair que je suis du coup très très loin d'être une boxeuse, au même titre d'être une athlète. Pourquoi ? Parce que 2 heures dans une vie, ce n'est rien du tout. Pour comparer, le prof, c'est une véritable machine. Mais pourquoi ? parce qu'il fait ça depuis 33 ans. Ses mouvements sont parfaits, selon moi. Sa gestuelle, ses postures, c'est super inspirant. Il suffit de le regarder faire et on arrive à voir la subtilité du mouvement. Et pour ma part, je suis très visuelle, donc j'apprends énormément en observant. Et du coup, c'est super chouette parce qu'en face de toi, t'as une machine de guerre et l'idée, c'est de s'en rapprocher, même si tu sais qu'il va peut-être falloir 30 ans pour en arriver à ce stade-là. Mais ça rend hyper humble, en fait, parce que tu dis, ok, en fait, je vais faire les choses, mais à mon niveau. Et c'est génial, parce que finalement, la seule personne avec qui on peut et on doit se comparer, c'est soi-même. Parce que lui, il a passé combien de centaines d'heures à pratiquer ? C'est incomparable avec les miennes actuellement. Par contre, si je me compare moi-même entre les débuts de la séance et la fin, c'est clairement pas parfait, mais par contre, j'ai progressé, mais de ouf. Je suis toujours à la fin, je suis toujours clairement meilleure à la fin de l'heure et demie de la séance plutôt que par rapport à qui j'étais au début. Mes mouvements n'étaient pas du tout parfaits et pourtant j'ai largement progressé parce que je suis clairement toujours plus loin de mes compétences à la fin. Enfin, je suis clairement plus loin de mes compétences de début à la fin que lorsque j'en avais jamais fait en fait. Et il faut voir du coup la progression comme une courbe. Parce que lorsque l'on est débutant, la courbe de progression, elle monte hyper vite, elle monte super fort. Et parce que en même temps, quand on commence de rien, bah, si on apprend des choses et qu'on s'applique sérieusement, c'est quand même assez facile de mettre déjà en place de bonnes bases. C'est toujours un petit peu plus tard que ça se complique. Que la courbe, du coup, au début, elle montait très très fort et puis après, limite, elle passe par... Un espèce de plateau de maintien avant de progresser, mais très très gentiment par rapport au début. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est applicable à n'importe quel domaine de la vie, en fait. Mais le principal, c'est qu'à chaque fois qu'on va pratiquer, bah, à chaque fois, on va progresser. Et mon message, c'est ça aujourd'hui. N'attendez pas de vous de progresser à pas de géant pour apprécier les efforts que vous faites dans un domaine. Les petits pas, ils sont bien plus rentables sur le long terme que le fait de vouloir progresser le plus vite possible à tout prix. C'est un peu comme une échelle en fait. Pour commencer, bah déjà il faut se rappeler que l'on ne grimpe jamais l'échelle du succès les mains dans les poches. Donc clairement, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, ça demande de faire des efforts, quoi que vous fassiez. Mais qu'il est quand même bien plus facile de grimper lorsque les marches sont rapprochées de 10 cm, et donc qu'on avance petit pas par petit pas, plutôt que les marches elles soient à 1 mètre l'une de l'autre. Tellement compliqué. Alors oui, ça va bien flatter l'ego lorsque on progresse comme ça, qu'on fait un bond de géant, qu'on arrive à passer là, waouh, je viens de grimper 1 mètre entre l'échelle, entre la barre et l'autre barre. Super, par contre t'es épuisé, et ça t'a demandé tellement, tellement de ressources, que peut-être que t'as même pas envie de recommencer. C'est bien plus épuisant, et du coup on a clairement plus envie d'abandonner. Parce que lorsque l'on veut que tout soit parfait au plus vite, on augmente proportionnellement notre risque d'abandonner ce que l'on fait. Parce qu'en effet, on est incapable d'apprécier les petites progressions qui nous amènent vers les grosses progressions. Et on ne construit pas de discipline. On carbure à la motivation qui, elle, bah, elle retombe comme un soufflet, parce qu'elle n'est pas nourrie. On est insatisfait. Donc comment voulez-vous que ce soit cultivé, que ce soit nourri ? La motivation comme la discipline ont besoin de se satisfaire du plus petit progrès afin de se cultiver. Donc si aujourd'hui votre problème c'est de commencer plein de choses pour les laisser tomber, demandez-vous. Qu'attendez-vous de vous ? Est-ce que vos exigences sont-elles réalistes ? Est-ce que vous arrivez à rester humble dans ce que vous faites ? Ou est-ce que c'est votre ego qui parle ? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire parfait pour progresser. Il y a juste à faire. Le progrès, c'est de la cultivation de l'expérience. Et sans expérience, il n'y a pas de progrès. Sans erreur, les leçons ne rentrent pas. Sans satisfaction de ce qui est, on est focalisé sur le manque de ce que l'on n'a pas, ou pas encore. Et je vous le dis franchement, c'est se tirer une balle dans le pied tout seul. Alors, soyez exigeant avec vous-même si vous désirez certaines choses dans la vie. Mais restez à la place de l'apprenti. On peut être un apprenti exigeant de la vie, exigeant de soi. À partir du moment où on reste humble face à ses capacités et honnête face aux efforts que l'on est prêt à engager pour progresser. Parce que c'est facile de vouloir un but sans exécuter les actions qui peuvent mener à ce but. Mais c'est simple, ça fonctionne pas. Ou ça fonctionne au début, mais pas du tout sur le long terme. Et c'est pourquoi on entend aussi si souvent que le voyage est plus important que la destination. Parce que sans ce voyage, en fait, on n'apprécierait pas à sa juste valeur le fait d'arriver là où on veut arriver. Et à ce moment-là, bah, l'arrivée n'aurait pas du tout la même valeur. Personne, je vais vous donner cet exemple-là parce que c'est ce qui me parle en ce moment, personne n'est devenu écrivain sans s'entraîner des heures et des heures par semaine pendant des années à écrire sur tout et n'importe quoi. Personne n'est devenu championne olympique de patin à glace sans passer des années sur cette même glace à tomber encore et encore. Alors, pour ce qui est de progresser à son niveau sans viser l'excellence, il faut apprendre à apprécier ses plus petits pas en avant, même si parfois on recule de quelques pas. La route de la progression, elle n'est jamais linéaire. Et des choses qui nous sembleront acquises, eh bien, elles viendront nous tester pour voir si c'est vraiment le cas. Mais c'est ok, parce que ça nous apprend, et ça fait partie en fait de cette progression. Pas besoin de faire parfait pour progresser. Alors n'exigez pas de vous des choses impossibles. Devenez simplement acteur de votre progrès en cherchant simplement à faire mieux que vous-même la fois d'avant. Arrêtez de vous comparer parce que la comparaison, c'est vraiment un poison pour l'estime de soi. Il faut jamais oublier de se comparer uniquement à ce qui est comparable, au risque de se faire du mal vraiment inutilement en fait. À partir du moment où vous faites, où vous passez à l'action, où vous vous entraînez, et ce dans n'importe quel domaine, que ce soit dans votre alimentation, votre sport, vos relations sociales, peu importe, tirez des leçons de ce qui ne fonctionne pas, apprenez de ce que vous faites faux, et je peux vous assurer que vous progresserez bien plus que n'importe quelle personne qui cherche à faire les choses parfaitement. La perfection dans un domaine peut bien sûr être un objectif pour certaines personnes. Et pour ma part, j'ai pas envie de vous dire que c'est vraiment mon cas, par contre, je vise quand même l'excellence dans certains domaines. J'ai toujours été quelqu'un qui a mis la barre super haut, et surtout dans le domaine professionnel, je dirais. C'est ce qui m'a amené à travailler dans des maisons, dans des établissements qui exigeaient l'excellence, c'est-à-dire dans des deux macarons guide Michelin, dans des hôtels 5 étoiles, où le moindre détail a son importance. Et ça m'a énormément appris. Par contre, dans ma vie personnelle, même si je vise à être bonne, très bonne dans ce que je fais, je ne vise pas à être parfaite. Parce que, d'une, ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon but, parce que, à part flatter mon ego, je ne sais pas trop si ça viendrait vraiment m'exciter. Par contre, ce qui m'excite vraiment, c'est cette progression pour arriver à être encore meilleure que la personne que j'étais il y a un mois. Enfin, la personne, la professionnelle en tant que coach, en tant qu'autrice, et oui, aussi un petit peu aussi en partie en tant que personne, qu'il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans. Et c'est ce voyage qui est vraiment hyper intéressant et enrichissant. Parce que aussi, finalement, bah, j'apprécie à sa juste valeur lorsque je fais les choses très bien, parfaitement, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut ne jamais oublier que la perfection réside dans les yeux de celui qui la regarde. Et que ce n'est absolument pas un concept objectif. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note sur votre application d'écoute préférée ou même un petit commentaire. C'est toujours super appréciable et cela ravit nos chers algorithmes. Alors du coup, en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao ciao !